Le bulletin du handicap.
Bonjour, ici Christiane Campagna et voici vos manchettes en ce mercredi 25 novembre. Le Réseau d'action des femmes handicapées du Canada lance une initiative pour contrer la violence. Le réseau de la STL entièrement accessible en 2026. Sixième édition de Noël des papillons. Les patients ontariens atteints de maladies rares se sentent abandonnés par la province et un réseau de neurones capable d'activer la marche est identifié. Le Réseau d'action des femmes handicapées du Canada annonce le lancement de son initiative « Législation, programmes et services, des réponses à la violence envers les femmes en situation de handicap ». Étalée sur plusieurs années, cette initiative va examiner et traiter les écarts entre la politique et les prestations de services qui contribuent, selon l'organisme, au taux élevé de violence perpétrée envers ce segment de la population. Lorsque les femmes en situation de handicap essaient d'accéder aux services de prévention de la violence, elles font face à un autre niveau d'abus ou à la violence systémique secondaire due au manque de capacité des fournisseurs de services à répondre à leurs besoins particuliers. Cette initiative cherche donc à combler le fossé entre la politique et la prestation de services en fournissant aux femmes en situation de handicap l'opportunité de proposer des réponses directement aux décideurs et aux fournisseurs de services. L'initiative, financée par Conditions féminines Canada, va d'abord être implantée en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique. Tout en identifiant les écarts entre la politique et la prestation de services, les groupes régionaux de travail dans chaque province vont également enregistrer des exemples de bonnes pratiques dans les services de police et les services aux victimes. Ils vont ainsi déterminer les étapes pour transférer ces bonnes pratiques dans les autres municipalités ou régions. Le Réseau d'action des femmes handicapées du Canada est une organisation féministe nationale et multi-handicap dont la mission est de mettre fin à la pauvreté, à l'isolement, à la discrimination et à la violence que connaissent les femmes en situation de handicap. Selon ce qu'on peut lire dans le courrier de Laval, la Société de transport de Laval se donne jusqu'en 2026 pour rendre accessibles toutes ses lignes aux personnes à mobilité réduite. Actuellement, seules 4 lignes offrent du transport aux gens en fauteuil roulant, triporteur ou quadriporteur, puisque ces autobus sont notamment équipés de rampes flip à la porte avant qui se déploient à la verticale avant de se poser sur le trottoir. Le tiers de notre flotte, qui comprend quelques 300 véhicules à ces rampes, explique Daniel Boismenu, chef des communications et du service à la clientèle de la STL, ajoutant que les rampes télescopiques dont sont munis d'autres autobus ont toujours des problèmes de fiabilité, les rendant inopérables. L'autobus est toutefois un élément à considérer parmi tant d'autres pour l'accessibilité, comme la présence de trottoirs aux arrêts et si l'environnement est sécuritaire autant à l'embarquement qu'au débarquement. Dans le cas de ces 3 lignes, ça ne veut pas dire que tous les éléments sont là, mais qu'il y en a suffisamment pour qu'elles aient le feu vert, a expliqué le porte-parole. Dans sa démarche, qui s'inscrit dans le cadre d'un plan soumis au ministère des Transports en 2013, la STL vise à offrir 7 lignes accessibles en 2017 et 18 en 2022 avant d'en arriver à l'objectif de 100 %. Elle devra bien sûr travailler de concert avec la Ville qui devra voir à l'aménagement du mobilier urbain. Dans les facteurs aussi à considérer pour l'accroissement de l'accessibilité au réseau, Daniel Boismenu avance les besoins supplémentaires et des demandes des usagers à mobilité réduite. Selon lui, il y a une bonne satisfaction au niveau du transport adapté. Évidemment, il y a des contraintes en termes d'horaire, mais également des avantages comme amener les gens de porte à porte, a ajouté le porte-parole. Il y a 2 semaines, une plainte a été déposée contre la STL pour son manque d'accessibilité par une personne à mobilité réduite à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Pour une 6e année, la magie de Noël prendra d'assaut le camp Papillon de Saint-Alphonse de Rodriguez à l'occasion du Noël des Papillons. Depuis décembre 2010, le camp Papillon se transforme en véritable village de Noël dans le but d'amasser des fonds pour lui permettre d'accueillir des jeunes qui vivent avec un handicap et leur donner l'occasion de participer à la vie de plein air. L'année dernière, le Noël des papillons a attiré plus de 2500 visiteurs et a permis de récolter plus de 20 000 $ pour la mission du camp. Les visiteurs pourront emprunter le train de Noël du lutin Chouchou. Ils recevront cette année encore la Mère Noël et sa boîte à biscuits. Excusez-moi, c'est l'esprit des fêtes qui s'empare de moi. Et des jouets où les enfants peuvent confectionner un bricolage. Ah, une boule de bois et sa boîte à jouets où les enfants peuvent confectionner un bricolage de Noël. Il y aura aussi l'arbre à canne, la résidence des lutins, le lutin glou et la forêt enchantée, le lutin timbré et sa boîte aux lettres. Et la couturière et sa boîte à couture. Il y aura de la glissade sur tube selon les conditions d'enneigement. Deux nouveautés cette année afin de bonifier l'expérience des visiteurs, la tyrolienne et les brunchs du dimanche qui débutent à 10 h. Le Noël des papillons sera ouvert sous réservation pour les groupes, les écoles et les garderies entre le 1er et le 18 décembre. Les journées d'ouverture pour le grand public sont les 6, 13, 19, 20 et 21 décembre. Les visiteurs sont accueillis entre 9h30 et 16h. Prévoir de 3 à 5 heures pour la visite du site. Il est possible d'apporter son lunch et un service de restauration est également offert. Le camp Papillon est situé au 210 rue Papillon à Saint-Alphonse-de-Rodriguez. Pour information, www.noeldespapillons.org. Des patients ontariens atteints de maladies rares se sentent abandonnés par la province. Un député conservateur demande à l'Ontario de créer un comité indépendant sur les maladies rares en vue d'offrir des traitements et du soutien aux personnes souffrantes. Lors d'un point de presse lundi matin, des patients se sont dit abandonnés par la province puisque leurs traitements, très coûteux, ne sont souvent pas couverts par le régime public d'assurance maladie. L'éventuel comité ferait le tour de la province pour entendre ceux qui souffrent de ces maladies, leurs familles, ainsi que les experts et travailleurs en santé, afin de développer des recommandations sur le traitement à offrir en Ontario. Le député conservateur de Kitchener-Conestoga, Michael Harris, affirme que ceux qui souffrent de maladies rares se heurtent à de nombreux obstacles en ce qui concerne leur diagnostic, l'approbation de médicaments et la possibilité d'obtenir des soins à l'extérieur du pays en raison de leur petit nombre et du coût élevé des traitements. La motion du député conservateur sera débattue en Chambre le 25 février prochain. Pour encourager la création du comité, Michael Harris lancera un site Internet où les Ontariens pourront raconter leur histoire, s'informer et encourager leur député provincial à soutenir cette initiative. Située dans la moelle épinière, la capacité de neurones sensoriels à contrôler le mouvement a été mise en évidence pour la première fois par des chercheurs. Si plusieurs points restent encore à élucider, la stimulation des voies sensorielles pour activer la marche chez l'homme représente un espoir pour les patients atteints de lésions de la moelle épinière. Les lésions de la moelle épinière ne bénéficient, en dehors de thérapies expérimentales, d'aucun traitement à ce jour. Pour la personne qui en est victime, la rupture de la communication entre le cerveau et la moelle entraîne la perte du contrôle volontaire des mouvements et donc la paralysie. Cependant, il existe au sein de la moelle épinière des circuits de neurones sensoriels autonomes capables de générer la marche. Leur rôle, assurer la locomotion une fois que la décision est prise au cerveau de se déplacer. Cette aptitude à entretenir le mouvement intéresse fortement les scientifiques, puisqu'activer ce réseau locomoteur pourrait permettre de marcher à nouveau. Ainsi, une équipe de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, l'ICM, menée par Claire Wyart, s'est penchée sur le fonctionnement et la modulation de ce réseau locomoteur spinal. Afin de mieux le comprendre, les chercheurs ont étudié la motricité chez un modèle animal, le poisson zèbre. Ces travaux nécessitent d'être approfondis, mais les résultats originaux obtenus ouvrent une nouvelle piste de recherche dans la compréhension du contrôle de la marche chez l'humain. C'était votre bulletin du handicap sur Canal M, la radio de Vuzévoix. Le bulletin ainsi que des liens vers les nouvelles et organismes mentionnés sont disponibles au vuzévoix.com. Vous pouvez aussi envoyer vos nouvelles à canalm@vuzévoix.com. Bonne journée!